Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Dans 6 mois, vous serez appelé à voter aux élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. La campagne a déjà commencé pour certains. Nous avons déjà les noms de ceux qui incarneront la bataille électorale. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Marion Maréchal pour Reconquête, Marie Toussaint pour les écologistes et Léon Desfontaines pour les communistes. Et depuis quelques jours, on peut ajouter le nom de Willy Schran à cette liste.
Vivre en France aujourd'hui, c'est compliqué. Quand vous avez des passions, des cultures, des traditions, vous avez un mode de vie, on est quand même à peu près emmerdé tous les jours dans tout. Et ça s'arrête jamais. Donc aujourd'hui, on a envie d'autre chose. Vous avez des gens qui nous disent avant, formidable, on va vous aider, on connaît ça par cœur. Après, ils oublient pendant. Et à la fin, ils reviennent nous voir, on recommence et on vous fait des promesses. Moi, j'ai envie d'aller défendre une cause rurale. Voilà, c'est mon ADN, c'est ma vie, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre dans ce pays.
Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs et tête de liste de l'Alliance rurale, répondait aux questions d'Yves Calvi le 5 décembre dernier. L'Alliance rurale, c'est le nom de cette liste apolitique qui veut défendre la ruralité au Parlement européen. Avant même son lancement officiel, cette liste agaçait déjà le Rassemblement national. Elle est soupçonnée d'être le fruit d'une stratégie qui a germé dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai? On va le découvrir ensemble. Et pourquoi y a-t-il autant d'enjeux autour de cette liste? On en parle aujourd'hui avec Charles Sapin, journaliste pour le magazine Le Point. Bonjour Charles.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et William Galibert, journaliste au service politique de RTL. Bonjour William.
Salut Marie-Pierre.
Tu suis l'Élysée et la majorité, entre autres. Charles Sapin, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de la création de cette liste? On a entendu la tête de liste Willy Schran, le patron des chasseurs. Mais il y a aussi un Thierry Coste, un lobbyiste assumé, qui lui aussi est à l'origine de cette liste.
Oui, c'est ça. Le fameux Thierry Coste qui a bâti une réputation ces 10 dernières années comme l'homme qui susurre à l'oreille des présidents de la République pour défendre la cause de la chasse. Alors, cette liste, en fait, elle s'est cristallisée en février dernier. Il faut savoir que Willy Schran, qui est donc le patron de la Fédération nationale de la chasse, est beaucoup dragué par les partis politiques, surtout à droite, depuis des années, parce qu'il y a une forme de fantasme électoral sur ce que pèsent les chasseurs et ce que pèse derrière la chasse, la ruralité. Et à force, Willy Schran, qui a soutenu des candidats ici ou là, il a soutenu Xavier Bertrand aux dernières régionales dans le Nord, il a soutenu aussi Emmanuel Macron au second tour de la dernière présidentielle, mais il y a quand même ce petit virus politique qui a commencé à l'atteindre, il s'est dit mais pourquoi pas moi et les européennes, pourquoi pas porter ma liste? Et donc, nous sommes en février dernier, le quotidien Le Monde publie une grande tribune avec beaucoup d'élus qui appellent à l'interdiction de la corrida et de la bouvine, ce qu'on appelle dans tout ce qui est l'art du taureau. Et parmi les élus qui ont signé, il y a beaucoup d'élus de la métropole de Montpellier. Les maires de la métropole de Montpellier vont voir Michael Delfos, qui est le maire de Montpellier, en disant « c'est très simple, tu vires ces élus où on organise une manifestation monstre pour défendre nos traditions, la corrida. » Le maire balaye du revers de ma main et dit « Oui, c'est ça. Voilà, faites une manifestation, vous serez 2000. » Et puis, on n'en parlera plus. Finalement, ils étaient près de 15 000. Et lors de cette manifestation-là, Willy Schran est invité à parler. Il est acclamé.
Et là, il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
Les mois qui suivent, il va faire une tournée un peu des territoires pour jauger un peu ses réseaux, ses soutiens potentiels. C'est vrai qu'une liste européenne, ça ne se monte pas comme ça en 24 heures. Il a des signaux plus ou moins positifs un peu partout.
Le lancement de cette liste, justement, a été savamment orchestré. Il y a eu des noms de personnalités qui devaient être sur cette liste qui ont été donnés. Mais finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu.
On cite aussi le nom de Bernard Hinault, qui aurait, semble-t-il, reculé, craignant une véritable tempête sur les réseaux sociaux.
Bernard Hinault, on se connaît bien. Ouais. Je l'ai vu souvent. Ça fait partie de tous ces gens qui, là aussi, soutiennent la cause. Bon, il est trop tôt pour parler de Bernard Hinault. On verra dans les mois qui viennent ce qui va se passer. Mais peut-être, après tout, pourquoi pas.
Mais est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, les chasseurs font peur, ou en tout cas être à vos côtés pose aujourd'hui un problème.
C'est un brûlot. Je pense qu'Calvi, vous prenez le problème dans le mauvais sens. Je pense qu'une liste Alliance Rurale, quand vous n'avez aucun politique dessus, hein, et que vous défendez des valeurs et la vie quotidienne des Français, ça fait surtout peur au monde politique, ça c'est sûr.
La tête de liste de l'Alliance Rurale aux élections européennes justifiait l'absence de personnalité dans sa liste. C'était encore une fois au micro d'Yves Calvi le 5 décembre. Charles Sapin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Willy Schran n'a pas été assez convaincant?
En fait, c'est un peu de la difficulté de ces listes qui sont apolitiques. C'est que ça touche des gens de la société civile qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la politique, de ce que ça induit en termes d'engagement et en termes de coûts aussi, de coûts portés, je veux dire. Donc, il y a le cas de Bernard Hinault, mais il y a un autre cas aussi qui est important, qui est celui du chef multi-étoilé qui était présenté comme la star de la liste, qui devait être en position inéligible, qui avait donné son accord. D'ailleurs, il me l'a dit, voilà. À partir du moment où sa candidature a été officialisée, et je crois que c'est la même chose pour Bernard Hinault, ils ont eu des tombereaux d'insultes, de menaces. Finalement, ils ne sont pas habitués à la violence, surtout en ce moment, la violence que suscite la politique. Ils se sont dit, dans quoi je mets le doigt là ? En fait, je ne suis pas venu là pour souffrir. Ce qui était présenté comme les stars de la liste, au jour du lancement de la liste lors de cette conférence de presse, bah finalement, ils font 180 degrés, ils retirent leur candidature et leur soutien. Ce qui, du coup, c'est un peu du plomb dans l'aile de la liste Alliance Rurale avant même qu'elle commence.
Et on comprend très bien, Marie-Pierre, qu'un Bernard Hinault adulé des Français depuis 50 ans ou qu'un Pierre Gagnaire mondialement célèbre n'a pas grand-chose à gagner, en fait, à se mettre sur une liste comme ça et ont beaucoup plus à perdre. Et c'est souvent ce qui se passe dans ces stars qui sont annoncées et au final... Quoi, il y a un rugbyman célèbre, Louis Picamole, qui va figurer sur la liste, et tout le reste a fait un peu pchit.
Alors si on parle autant de cette liste pour les européennes, c'est parce que certains y voient un avantage dont pourrait bénéficier Emmanuel Macron. Écoutez la réaction de Thierry Coste quand on évoque cette hypothèse, c'était sur RTL le 25 octobre.
Pourquoi on a l'impression que c'est fait pour siphonner les droits de la droite et du Rassemblement National au profit d'Emmanuel Macron ?
Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'une liste rurale, une liste de passionnés du monde rural, de ceux qui veulent défendre ce vivre et travailler dans nos campagnes, ça, généralement, une liste comme ça, ça prend partout, à gauche comme à droite.
William, Thierry Coste par rapport à Emmanuel Macron, c'est qui ?
D'abord, Thierry Coste par rapport à Thierry Coste, c'est quelqu'un à présenter. C'est une gueule, il a un petit côté Paul Newman, le regard bleu persan, il laisse planer toujours des mystères sur ses réseaux réels ou supposés, sur ses contacts, sur ses aventures dans le monde entier. Et il prétend, comme ça, avoir eu l'oreille des trois derniers présidents, au moins, sur les sujets de chasse, de ruralité. C'est vrai qu'en 2016, quand il est présenté à Emmanuel Macron, il va un petit peu chapeauter la campagne du candidat Macron sur tous ses thèmes. Il va lui souffler quelques bonnes idées. Il va insister sur le poids électoral supposé des chasseurs ou surtout le bénéfice que Emmanuel Macron pourrait en retirer. Et comme ça, il va rester dans le sillage de la Macronie, on va dire. Parfois, il en joue beaucoup pour revendiquer cette proximité qui, selon les époques et selon les moments, est plus ou moins réelle. Mais oui, il a eu un rôle beaucoup plus fort dans la première campagne et dans la première élection d'Emmanuel Macron. Et depuis, il reste dans le sillage de la Macronie et dans le sillage des politiques et de la chasse de manière générale.
Alors, j'ai une question pour tous les deux. On a parlé de Thierry Coste et maintenant, j'aimerais qu'on parle du personnage Willy Schramm. Quand on l'écoute, on voit qu'il maîtrise vraiment tous les codes de la communication politique. C'est le président d'une fédération assez influente. Ou alors, est-ce que c'est un politique en devenir, d'après vous ?
Les deux.
Oui, c'est ça. La frontière entre lobbyiste et politique peut être parfois très très fine. La différence se fait justement dans le fait de se présenter dans les urnes ou non. Mais c'est vrai que Willy Schramm, que ça soit, est comme un politique, est habitué au discours par rapport aux membres de sa fédération. Il est quotidiennement en lien, en contact avec des acteurs publics, que ça soit étatiques, départementaux, régionaux, où il essaie de négocier des avantages. Enfin, finalement, on est dans un mode de vie qui est très très proche. Il est très bonhomme, il en joue, il a cette rondeur, il essaye de toucher les gens par son discours. Pour rester dans le vocabulaire de la chasse, c'est pas un perdreau de l'année, quoi. C'est que ça soit pour défendre sa cause, et maintenant c'est pour défendre...
Il fait de la radio aussi, Willy Schramm, il sait pousser des coups de gueule quand il faut, il sait taper habilement sur une Sandrine Rousseau, ou sur une figure écologiste quand ça va parler barbecue, chasse, etc. Enfin, il sait manier des réflexes assez primaires pour se faire entendre. Voilà, c'est une grande gueule, Willy Schramm. Et c'est vrai que, oui, ça va être intéressant. Charles parlait de fantasme électoral autour des chasseurs. Bon, il y a 1 million de chasseurs en France. On va enfin un petit peu savoir si on vote vraiment avec son permis de chasse et sa carte électorale ou si les choses sont beaucoup plus décorrélées que ça.
En sachant que, je me permets de rebondir, moi aussi je suis très curieux de savoir quel sera le thermomètre de cette ruralité. Le dernier moment un peu chiffré où ça a été jaugé, très intéressante étude de l'IFOP, de Jérôme Fourquet, qui a été fait en 2020 à partir des votes de la présidentielle de 2017. Et on voit qu'en fait, ce vote est très éclaté. Les chasseurs ont voté pour 26% pour Marine Le Pen, donc elle superforme pas mal par rapport à son vote de l'époque. Mais François Fillon a 24,7%, Emmanuel Macron 25%, et même Jean-Luc Mélenchon a eu 17% des voix des chasseurs.
Ah donc oui, donc c'est très dur de définir un courant politique au sein de l'électorat des chasseurs.
Le fusil ne détermine pas forcément l'appartenance politique, mais comme il n'y aurait peut-être pas un vote footballeur ou un vote cycliste.
Ouais. Alors Emmanuel Macron, en tout cas, a de bonnes relations avec les chasseurs. Le président a divisé par deux le prix du permis de chasse, de 400 à 200 euros maintenant. Willy Schramm a déclaré au premier tour de l'élection présidentielle, on l'a dit, qu'il votait pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il existe une entente entre les deux, William? Et si oui, pourquoi est-ce que le chef de l'État entretient un petit peu ce lien?
Il a toujours voulu afficher une proximité avec les chasseurs, même si Emmanuel Macron n'a souvent pas souhaité que ça soit très médiatisé. On se souvient, ou vous vous souvenez peut-être, qu'il a fêté ses 40 ans, le président à peine élu, à Chambord, en allant voir les chasseurs autour d'un beau tableau de chasse avec beaucoup de gibier à ses pieds, en disant juste une seule chose, pas de photos s'il vous plaît. Manque de bol, les photos sont parues. Il y a tous ces gestes que tu as rappelés, Marie-Pierre, sur le permis de chasse qui n'est pas anodin. Il y a un fonds spécial qui a été créé à destination des chasseurs et au nom de la sauvegarde de la biodiversité. Enfin, il y a eu des tonnes et des tonnes de petits gestes d'amour du président envers les chasseurs. Et quand il a fallu un petit peu régler les choses, quand il y a eu un grand plan chasse qui a été annoncé, on se souvient des débats qui étaient très animés. Est-ce qu'il faut des journées sans chasse? Est-ce qu'il faut des mesures très coercitives? Et finalement, tout ça s'est terminé avec juste un rappel que ces messieurs dames qui aiment la chasse ne devaient pas boire lorsqu'ils avaient un fusil à la main. Enfin, il y a eu une volonté de protéger et de bichonner les chasseurs qui est évidente depuis 2017 et l'élection du président.
Et il y a eu un événement politique assez important. En 2018, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, démissionne.
Les informations vous sont présentées par Bénédicte Tassard. Bonjour Bénédicte.
Bonjour. Nicolas Hulot ne sera donc pas cet après-midi devant les ambassadeurs français réunis en ce moment à Paris. Il n'accompagnera pas non plus demain Édouard Philippe dans les Hautes-Alpes pour les Assises de l'eau. Le ministre de la Transition écologique a jeté l'éponge en début de matinée. Une démission surprise annoncée chez nos confrères de France Inter. La décision la plus difficile de ma vie, a-t-il déclaré. Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
Cette démission était soudaine. Ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, n'en avaient été informés. Les raisons de cette démission ont fini par fuiter et c'est notamment en rapport avec le lobby des chasseurs. C'est ça, William ?
Oui, il y a, on va dire, une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase Nicolas Hulot. Il y a une réunion en 2018 qui est organisée, ce qu'on appelle des réunions de haut niveau. Ça veut dire que le président va y participer, le Premier ministre va y participer. On fignole à l'époque les projets autour de la chasse. Nicolas Hulot arrive à l'Élysée, tout le monde s'installe autour de la table, bam, qui voilà, Thierry Coste, notre fameux lobbyiste, et sauf que le ministre de l'écologie, à l'époque, lui, il n'avait pas du tout été prévenu de cette présence. Ça a été un élément de fureur, très intime, très interne à Nicolas Hulot, qui a fait éclater sa colère à la fin de cette réunion en s'engueulant avec Thierry Coste. Voilà, la goutte de trop, ou l'élément qui a fini de forger l'opinion de Nicolas Hulot. Et en fait, bon, Thierry Coste s'est un petit peu vanté d'avoir eu la tête du ministre. Derrière, c'est un petit peu exagéré. Derrière cette démission de Nicolas Hulot, il y avait surtout un rejet en fait pour les méthodes aussi d'Emmanuel Macron, qui lui adore mettre tout le monde dans un bocal et laisser tous les petits piranhas en train de se bouffer le nez et de voir ce qui pouvait en ressortir. Nicolas Hulot, lui, n'en pouvait plus de ses méthodes et il voyait bien que des forces agissantes étaient entraînées parfois dans son dos, que les lobbies de la chasse continuaient à avoir de l'influence sur le président, que les promesses présidentielles à son égard ne seraient pas forcément tenues. Mais c'est vrai que depuis cette épisode, Thierry Coste a pu marquer sur son CV « J'ai eu la tête d'un ministre de l'écologie ».
Et Nicolas Hulot n'a pas réussi à pousser les intérêts de l'écologie, en tout cas par rapport aux intérêts des chasseurs. Charles Sapin, est-ce que l'Alliance rurale et le Rassemblement national parle au même électorat? On le disait tout à l'heure en citant l'étude de l'IFOP. Pourquoi est-ce que le Rassemblement national se sent menacé au final par cette liste?
Parce que c'est vrai que le Rassemblement national, quand on regarde la sociologie de ses soutiens, c'est un électorat à majorité populaire, dont beaucoup fait partie de la ruralité. Donc ça peut
oui,
mordre.
Parce qu'on parle des chasseurs, mais là, cette liste, c'est la ruralité au sens large.
Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut souligner aussi que, notamment dans la ruralité et jusqu'au cadre du Rassemblement National, il y a beaucoup d'animalistes donc qui sont très très opposés à la chasse. Donc c'est un électorat qui est assez hétérogène. Donc ils voient ça d'un mauvais œil parce que c'est vrai que au-delà même du message de la chasse, quand on écoute le discours de Willy Schren, qui est eurocritique, qui est sur bien des aspects populistes, c'est un discours qui peut se recouper avec le discours du Rassemblement National. Et l'enjeu pour le Rassemblement National, c'est d'arriver en tête lors de ces élections européennes, comme il l'avait fait en 2019. Et quand bien même cette liste viendrait lui piquer 0,5%, un point et demi. C'est peut-être ce point et demi qui le fera passer derrière la liste présidentielle. Il faut rappeler qu'en 2019, Jordan Bardella est arrivé moins d'un point devant la liste de La République En Marche, conduite par Nathalie Loiseau.
Donc vraiment, chaque pourcent est très important. Et du côté de la majorité, on prend ses distances avec cette liste. Écoutez François Patriat, sénateur Renaissance, proche d'Emmanuel Macron et aussi chasseur.
Moi, je ne pense pas qu'on nous prendra des voix à nous. Il y a des gens que je sais qui sont tentés de voter par le vote RN. Autant leur donner un réceptacle, quitte à les ramener chez nous après avec Thierry.
William, est-ce qu'elle tombe au bon moment, cette liste, pour la majorité, ou est-ce qu'on est vraiment un peu dans la politique fiction d'imaginer...
Vous entendez François Patriat, qui est un ami, un proche d'Emmanuel Macron, appeler Thierry Coste Thierry.
Oui. Hein,
bon, déjà, ça dénote une certaine proximité. Bien sûr que du côté de la majorité, on ne voit pas du tout cette liste d'un mauvais œil, parce qu'on se dit, effectivement, si des voix sont siphonnées quelque part, ça ne sera pas dans leur camp, et ça sera plutôt du côté du Rassemblement National, et que ça pourrait, comme le disait Charles, faire la différence quand il s'agira d'être à touche-touche le soir de l'élection entre la liste de Jordan Bardella et la liste présidentielle. Ce qui a pu agacer à un moment du côté de l'Élysée, c'est que ces messieurs, Willy Schren, Thierry Coste, revendiquent un petit peu trop la bienveillance et l'aval d'Emmanuel Macron au moment de la constitution de cette liste. Mais ce qui est clair, c'est que si à un moment le président de la République avait voulu flinguer, entre guillemets, la liste chasseur, il aurait pu le faire. En tout cas, il aurait pu, on va dire, peser beaucoup plus pour leur dire, messieurs, c'est pas une bonne idée, n'y allez pas. Et il a laissé faire.
Willy Schran assure que cette liste est apolitique et que pour l'instant, elle n'a vocation à exister que pour les élections européennes. Écoutez.
La première idée, c'est quoi ? C'est d'aller à l'Europe. Alors, si c'est pour siéger et mélanger dans tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que si c'est pour siéger d'ailleurs nulle part, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Mais au niveau européen, vous allez avoir plusieurs pays qui vont faire ce genre de liste. Le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir un groupe ruralité demain, effectivement, au Parlement européen.
En 1999, une liste chasse, pêche, nature et tradition s'était présentée et avait recueilli un peu plus de 6%. Charles Sapin, quelles sont les chances de cette liste de l'Alliance rurale ? Et s'ils remportent des sièges, est-ce qu'on sait dans quel groupe est-ce qu'ils peuvent siéger ?
Alors, c'est très difficile de répondre aux deux questions, en fait. je vais essayer quand même. La première question, il y a un potentiel électoral. C'est-à-dire que, notamment chez les abstentionnistes, Willy Schren, il s'est lancé dans cette élection en faisant une analyse, c'est qu'on a une montée en puissance de débats un petit peu identitaires sur le mode de vie. C'est un peu ce que Jérôme Fourquet de l'IFOP appelle la France du barbecue contre la France du quinoa, par exemple de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent changer le mode de vie pour des raisons environnementales, pour des raisons de lutte contre le patriarcat, et puis il y a des gens qui sont plus conservateurs, qui veulent garder le mode de vie qu'ont connu leurs grands-parents, qu'ils ont eu par leurs parents et qu'ils aimeraient transmettre à leurs enfants, et ça passe par tout un tas de traditions. Et le potentiel est là, si vous voulez. C'est-à-dire que dans un climat politique très anxiogène, quand vous avez quelqu'un qui défend le bon vivre, les bonnes bouteilles de vin, l'apéro et les bonnes chères, ça peut parler à des gens. Après, il y a beaucoup de limites, hein, parce qu'il y a un potentiel, il faut qu'il se réalise. Le problème, c'est que cette liste, c'est des gens qui sont apolitiques. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de testostérone. Ils peuvent se taper dessus, ça commence déjà à poindre. Il y a une deuxième limite, c'est qu'ils n'ont pas de programme politique véritable. Donc, il y a un moment, quand on sera dans l'élection, on va leur dire « l'immigration, vous en pensez quoi ?» Et la mutualisation de la dette souveraine. Et là, on risque d'avoir un silence gêné. Donc, ça peut leur faire perdre des points. Et puis, le troisième limite qui est importante, c'est l'événement. Si vous avez une recrudescence des traversées de la Méditerranée de migrants et que l'immigration occupe toute la fin de l'élection, personne ne va voter pour la Côte de Bœuf. Si vous avez l'Ukraine qui perd la guerre, personne ne va voter pour la Côte de Bœuf. Donc tout ça est très difficile à jauger. Maintenant, deuxième question, où est-ce qu'ils vont siéger ? Alors ça, c'est la question à 1 million de Français.
D'ailleurs, il n'y a pas répondu pendant une conférence de presse. Il est assez vague.
Alors, Willy Schren, dans l'article qu'on a fait dans Le Point, nous répondait, ce qui est sûr, c'est que je ne siégerai pas avec Renew, donc le groupe des forces du président de la République, histoire de dire, ma liste n'est pas une liste de l'Élysée. Bon, sauf que où est-ce qu'il va siéger ? Son rêve et de créer un groupe au Parlement européen avec d'autres listes rurales. C'est très compliqué. Il faut 25 eurodéputés et il faut des eurodéputés qui viennent de 7 nationalités différentes. Donc c'est un doux rêve. On verra comment ça va avancer, mais pour l'instant, c'est une question sans réponse.
Le vrai motif d'espoir, c'est le coût politique qui avait été réalisée en 1999 aux élections européennes. La liste s'appelait pas Alliance Rurale à l'époque, mais Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Déjà, Thierry Coste en était l'instigateur ou le directeur de campagne. Et le score qui avait été réalisé, c'était 6,77%, ce qui est très loin d'être ridicule, ce qui est un très beau score. Le seul problème, Charles l'a dit, c'est que le steak, le bon vin, la corrida, ça fait pas un programme politique et que les temps politiques que l'on traverse sont très différents de ceux de 1999.
Et maintenant que cette liste s'ouvre à la politique, est-ce que, d'après vous, vous pensez que ça veut dire que c'en est fini du lobby des chasseurs ? Est-ce que le lobby va continuer ? Ils vont à la fois travailler et sur le plan politique et sur le plan lobbyiste ?
Bah, c'est très intéressant, en fait. C'est vrai que quand on regarde ces 30 dernières années, le lobbying de la chasse a oscillé entre deux stratégies. Il y a une première stratégie qui est celle qu'on est en train de voir, hein, c'est-à-dire pour défendre nos arguments, on va avoir une incarnation électorale, on va se présenter dans les urnes. C'est un avantage, c'est que du coup, on se connaît exactement le poids que pèse en fait la ruralité, la chasse, et ça leur permet d'avoir du concret pour négocier avec d'autres formations plus fortes, notamment des formations qui sont capables d'arriver au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé avec chasse, nature, pêche, tradition en 99. Le problème, c'est que c'est très enfermant. Nihous reprend le truc en 2007, il négocie bon an mal an un rattachement, et puis ça fusionne et ça disparaît dans l'UMP en 2010. Donc, depuis 2010, la chasse était plutôt dans une stratégie de lobbying traditionnelle. C'est-à-dire, on va parler à tous les responsables politiques, tous les responsables publics, on s'en souvient, hein, chaque élection présidentielle, il y a une sorte de conférence où les chasseurs invitent tous les candidats présidentiels. Et voilà, on fait du lobbying un peu traditionnel. Ça a un avantage, c'est que c'est pas enfermant, mais en revanche, il y a une forme de fantasme, on sait pas trop combien ça pèse, quoi, la ruralité, combien de divisions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement de stratégie, il retourne dans les urnes. Pourquoi ? À mon sens, c'est parce que Willy Chan a compris qu'il y avait ce débat politique qui se déplaçait sur cette question identitaire du mode de vie. Il se dit, on a eu pas mal de bénéfices, on a réussi à négocier des choses très importantes avec Emmanuel Macron. Fin du second quinquennat, Emmanuel Macron, c'est terminé, il va falloir qu'on se compte pour pouvoir peser vis-à-vis du prochain président.
William ?
Justement, une arrière-pensée de chez Alliance Rurale, c'est de se dire qu'ils peuvent peut-être faire mieux que les écologistes aux prochaines élections européennes. Et si jamais Alliance Rurale était plus fort que les Verts lors des prochaines élections européennes, ça serait quand même un sacré trophée de chasse.
Merci Charles Sapin, merci William Galibert. Pour cet épisode, je suis accompagnée à la réalisation par Hugo Gandon. Merci aussi à Quentin Baron aux archives. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.